Chapitre 7 Voyage d'essai.
Si elle laisse encore une fois son sac dépasser de là-dessous, je la tue.
Althea se retourna à demi sur sa couchette, puis joua des coudes. Crénom. C'était si étroit qu'elle ne pouvait même pas se retourner complètement. Elle jeta un coup d'œil à Ambre. Celle-ci était campée, main sur les hanches, dents serrées, et fixait d'un œil noir le sac de Jack. Elle haletait comme si elle revenait de travailler dans la mâture.
« Calme-toi !»
conseilla Althea.
« Respire un bon coup. Dis-toi que ça n'est pas si important. C'est seulement que nous sommes entassés là-dedans. »
poursuivit-elle avec un sourire.
« Donne un bon coup de pied dedans, tu te sentiras mieux. »
Ambre la regarda, ahurie. Ses yeux étaient plats et durs comme la pierre de son nom. Puis, elle se tourna sans un mot, et envoya le sac de Jack à sa place d'un coup de pied. Avec un soupir, elle se voûta pour monter sur sa couchette qui se trouvait sous celle d'Althea. Celle-ci l'entendit remuer pour s'installer.
« Je déteste ça !»
marmonna-t-elle férocement après quelques instants.
« J'ai vu des cercueils qui étaient plus grands que ça. Je ne peux même pas me tenir assise. »
« Si on a du gros temps, tu apprécieras que ce soit si étroit. » « Tu peux te raidir et arriver quand même à dormir. »«
Que voilà une charmante perspective !»
marmotta Ambre. Althea pencha la tête par-dessus le bord de sa couchette et dévisagea son amie avec curiosité.
« Tu es sérieuse, n'est-ce pas? Tu détestes ça à ce point ?»
Ambre ne lui rendit pas son regard. Elle avait les yeux rivés à la tête de lit en face de son nez.
« J'ai toujours eu toute ma vie... un endroit où je pouvais me retirer seul. Manquer de solitude pour moi, c'est comme manquer de sel.
Rachen t'a proposé d'utiliser sa chambre quand il n'y est pas.
C'était ma chambre avant,
dit Ambre sans rancœur.
Maintenant, c'est la sienne, avec ses affaires. Ça change tout. Je ne peux pas m'installer là-dedans. J'ai l'impression d'être une intruse. Je ne peux pas me claquemurer.
Althea releva la tête. Elle se creusa la cervelle.
Ce n'est pas grand-chose, sûrement, mais tu pourrais t'isoler derrière des rideaux. Ce sera exigu, mais Jack et moi, on respectera ton espace. Ou tu pourrais apprendre à grimper dans le gréement. Tout en haut du mât, le monde est complètement différent.
Mais on est exposé à tous les regards,
rétorqua Ambre d'une voix sarcastique, non dénuée cependant d'une pointe d'intérêt.
Là-haut, le ciel et l'océan sont si vastes que le petit monde en dessous n'a plus d'importance. En fait, quand tu es en haut du mât, tu es pratiquement invisible du pont. Tu regarderas la prochaine fois que tu y seras.
Peut-être.
Sa voix était basse, presque radoucie. Althea estima qu'il valait mieux la laisser tranquille. Elle avait déjà observé cette réaction chez les marins novices. Soit son ami s'adapterait à la vie à bord, soit elle s'effondrerait. Mais, sans savoir pourquoi, elle ne la voyait pas s'effondrer. Ambre avait cet avantage sur la plupart qu'elle n'avait pas pris la mer pour commencer une vie nouvelle et exaltante. C'étaient les aventuriers qui s'en sortaient le plus mal. Ils se réveillaient le cinquième jour pour s'apercevoir que la nourriture peu variée, la promiscuité et les conditions de vie sordides de l'équipage étaient la norme de la glorieuse nouvelle existence qu'ils espéraient trouver en embarquant. Ceux-là ne se contentaient pas de craquer. Ils entraînaient aussi les autres. Althea ferma les yeux et chercha le sommeil. Bientôt, elle devrait être sur le pont, et elle avait ses propres soucis. Le temps était beau, et le Parangon naviguait aussi bien qu'un navire ordinaire. Il n'était pas joyeux, mais il n'avait pas non plus sombré dans une de ses humeurs moroses. Elle en rendait grâce à ça. Le revers de la médaille... c'était ses ennuis avec l'équipage. En fait, elle se heurtait précisément aux difficultés prédites par Brachen, maudit soit-il. D'une certaine façon, ses avertissements lui interdisaient d'aller lui demander conseil. Sur la plage, elle s'était montrée d'une telle suffisance, persuadée qu'elle saurait s'y prendre avec les hommes sous ses ordres. À présent, l'équipage semblait bien disposé à lui prouver le contraire.
Pas tous. Il fallait être juste. La plupart se seraient mis dans le rang s'il n'y avait pas eu Haf.
Il se rebiffait à la moindre occasion. Pire,
Il avait de l'influence. Les autres s'alignaient volontiers sur son attitude. Il était beau, propre et attirant. Il avait toujours un mot aimable ou une plaisanterie pour ses compagnons de bordée. Il se portait de bonne grâce à la rescousse quand un homme avait des ennuis. C'était le camarade idéal apprécié de l'équipage.
« C'est son autorité naturelle, songea-t-elle avec lassitude, qui est la source de conflits. »
Et le fond du problème, c'était qu'elle était une femme.
Il paraissait n'avoir aucune difficulté à accepter les ordres de Braschen ou de Lavoie. Pour cette raison aussi, elle ne pouvait se plaindre à eux. Elle devait dénouer seule la situation.
Si l'homme avait ouvertement fait preuve d'insubordination, elle aurait pu réagir au vu de tous. Mais il la provoquait avec subtilité et la faisait apparaître incompétente aux yeux de l'équipage. Elle s'imagina aller se plaindre à Braschen et grimaça.
Haf était malin. Si elle faisait équipe avec lui pour aller un cordage, il contenait sa force, l'obligeant ainsi à aller jusqu'aux limites des siennes.
La seule fois où elle lui avait ordonné de s'y mettre un peu plus énergiquement, il avait pris un air choqué.
Les hommes les avaient regardés, surpris.
Avec les autres, Haf accomplissait toujours plus que sa part, ce qui la faisait passer pour une chiffe-molle.
Elle n'était pas aussi forte que les matelots qui travaillaient à ses côtés. Elle ne pouvait rien y changer. Cependant, non de ça, elle y mettait du sien et se sentait humiliée quand il faisait croire aux autres qu'elle n'était pas à la hauteur.
Lorsqu'elle lui assignait un travail à accomplir seul, il s'en acquittait bien et promptement. Il affichait une expression de désinvolture qui transformait la plus simple des besognes dans la mature en exploit.
Du dédain pour ses ordres et un certain goût du risque, mal à l'aise, elle se rappela un jeune matelot appelé Devon qui avait des traits communs avec Haf et qu'elle avait admiré. Pas étonnant que son père s'en soit débarrassé.
Une autre astuce de Haf consistait à s'incliner devant elle comme devant une femme et non pas avec le respect dû à un lieutenant. Il s'écartait sournoisement pour la laisser passer, lui tendait une ligne ou un outil comme s'il s'agissait d'une tasse de thé, ce qui provoquait les ricanements des autres, et aujourd'hui Clapot avait été assez sot pour l'imiter.
Le gros balourd lui avait fait un petit salut obséquieux.
Ils étaient en position adéquate. Elle lui avait botté le train et l'avait fait dégringoler la descente des cabines. Il y avait eu un éclat de rire général d'approbation, gâché par l'exclamation d'un plaisantin anonyme.
« Pas de chance, Clapot. Elle préfère Haf. »
Du coin de l'œil, elle surprit le dit Haf, hilar, qui remuait la langue. Elle avait fait semblant de ne rien voir, simplement parce qu'il n'y avait aucun moyen satisfaisant de s'en sortir. Elle crut avoir réussi lorsqu'elle aperçut l'expression de Cliff. La déception se lisait sur son visage. Il s'était détourné, humilié pour elle. Cet incident l'avait définitivement convaincue qu'elle devrait agir au moindre écart de Haf. L'ennui, c'était qu'elle ne savait toujours pas comment s'y prendre. La position de lieutenant n'était pas commode. Elle faisait partie de l'équipage tout en étant leur supérieure. Ni officier, ni brave matelot, elle devrait se débrouiller seule.
Est-ce que tu as l'intention de faire au sujet de Haf ?
Demanda Ambre à mi-voix depuis sa couchette.
Cela me donne la chair de poule quand tu fais ça,
dit Althea d'une voix plaintive.
Je t'ai déjà expliqué. C'est un truc tout simple qu'on voit dans toutes les foires. Tu n'as pas arrêté de remuer comme s'il y avait plein de fourmis dans ta couchette. Je n'ai fait que deviner ta préoccupation la plus probable.
D'accord, concéda Althea sceptique. Pour répondre à ta question, j'aimerais lui flanquer un bon coup de pied dans les couilles.
Exactement ce qu'il ne faut pas faire,
dit Ambre d'un ton supérieur.
Les éventuels témoins vont tiquer et se mettre à la place de Haf. On considérera cela comme un coup typique de putain, une femme qui frappe un homme à l'endroit le plus sensible. Tu ne peux te permettre d'être jugé comme ça. Il faut qu'on te perçoive comme un lieutenant qui administre une bonne leçon à un matelot arrogant.
Des suggestions ?
Demanda Althea sur un ton provoquant.
C'était déconcertant de voir Ambre aller droit au cœur de la question.
« Prouve que tu es meilleur que lui, que tu mérites d'être lieutenant. C'est ça son problème, tu sais. Il pense que si tu t'effaçais et devenais simple passagère, il prendrait ta place. »
« Ça, c'est sûr, » admit Althea. « C'est un bon marin et il a une autorité naturelle. Il ferait un bon lieutenant et même un bon second. »«
Eh bien, c'est une de tes options. Efface-toi et laisse-lui la place. »«
Non, c'est mon poste, » grogna Althea.
« Alors défends-le. Mais parce que tu es au-dessus, tu dois te battre loyalement. Tu dois l'humilier. » Attends ton heure et saisis l'occasion. Il faut que ce soit sérieux. L'équipage ne doit avoir aucun doute. Prouve que tu es meilleur marin que lui, que tu mérites ta position.
Althea l'entendit remuer sur sa couchette. Elle ne bougea pas. Elle ruminait une idée troublante. Était-elle meilleure que Haff? Méritait-elle d'être au-dessus de lui? Pourquoi ne prendrait-il pas sa place? Elle ferma les yeux. La nuit lui porterait conseil. Avec un juron étouffé, Ambre donna un coup de pied au bout de sa couchette puis retourna son oreiller. Elle s'installa, mais se remit bientôt à gigoter.
« Je ne possède pas ton don. Si tu me disais ce qui te préoccupe ?» demanda Althea.
« Tu ne comprendrais pas, » répondit Ambre. « Personne ne peut. »
« Essaie pour voir. »
Ambre poussa un long soupir.
Je me demande pourquoi tu n'es pas un gamin esclave à 9 doigts. Je me demande comment Parangon peut être à la fois un petit garçon apeuré et un homme cruel. Je me demande si je devrais vraiment être à bord de ce navire, si je n'étais pas censé rester à Terrilleville pour veiller sur Malta.
Malta ? Fit Althea incrédule. « Qu'est-ce que Malta a à voir là-dedans ?»«
Ça, » repartit Ambre avec lassitude, « c'est précisément ce que j'aimerais bien savoir. »«
Il y a quelque chose qui cloche, capitaine. Avec partage, je veux dire. »
Ganki s'encadra dans la porte de la chambre de Kenith. Le vieux pirate n'avait jamais eu l'air si bouleversé. Il s'était découvert et pétrissait son bonnet. Kenith sentit son estomac se contracter, pris d'un mauvais pressentiment. Il resta impassible. Il haussa le sourcil d'un air interrogateur.
« Gankis, il y a beaucoup de choses qui clochent à partage. Laquelle en particulier t'amène ici ?»«
Brig m'a envoyé, capitaine, pour vous dire que ça sent mauvais. Ah, partage, c'est-à-dire. » Vrai, ça sent toujours mauvais quand on arrive à partage, mais là, ça sent vraiment mauvais. Ça sent les cendres mouillées.
Voilà. Comme un doigt glacé au bas du dos. Dès que le vieux matelot l'eut signalé, Kenith l'aperçut. L'odeur était faible dans sa chambre close, mais voilà. C'était la bonne vieille odeur du désastre qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. Curieux comme une odeur suscite en vous le souvenir avec plus d'immédiateté que les autres stimulants sensoriels. Des cris dans la nuit, des flots de sang à la fois lisses et poisseux, des flammes jusqu'au ciel. Rien qui ressemble tout à fait à l'odeur de maisons incendiées mêlées à celle de la mort.
« Merci, Gankis. Dis à Brig que je monte. »
La porte se referma derrière le matelot. Il était très troublé. Partage était ce qui se rapprochait le plus d'un port d'attache pour l'équipage. Ils savaient tous ce que signifiait cette odeur, mais Gankis n'avait pu se résoudre à le dire. Partage avait été attaqué, probablement par des trafiquants d'esclaves. L'événement n'était pas rare dans une ville pirate. Des années auparavant, du temps du vieux gouverneur, des flottes de navires écumaient ses eaux et opéraient des incursions. Ils avaient découvert et rasé nombre de places fortes de pirates. Partage en avait réchappé alors, insoupçonné. À l'époque de relâchement qui avait vu le déclin du règne du vieux gouverneur et sous le gouvernement incompétent de Kosgo, les villes pirates n'avaient pas été inquiétées. Elles avaient appris l'insouciance et la prospérité. Kenith avait tenté de les mettre en garde, mais à Partage, personne ne l'écoutait.
Le cercle se referme.
Il baissa les yeux vers l'amulette à son poignet.
Ce fichu charme n'était pas un porte-bonheur, c'était une calamité. Il ne parlait que quand ça lui chantait, et encore, c'était pour proférer des menaces, des avertissements et de sinistres prophéties.
Il regrettait de l'avoir fait fabriquer, mais il ne pouvait guère s'en débarrasser. L'amulette contenait beaucoup trop de lui-même pour la laisser tomber en des mains étrangères. De même, détruire une sculpture vivante de son propre visage devait certainement entraîner sa destruction à lui. Ainsi continuait-il à tolérer la petite amulette de bois sorcier. Un jour, qui sait, elle se révélerait utile. Qui sait?
J'ai dit, le cercle se referme. Tu ne comprends pas ou tu deviens sourd?
Je t'ignorais, dit Kenith aimablement. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le port de Partage commençait à apparaître. Des mâts se dressaient hors de l'eau. Derrière eux, la ville avait brûlé. La forêt luxuriante qui s'étendait au-delà avait roussi. Les quais n'étaient plus que des pontons dont les baux calcinés étaient dirigés vers le rivage. Kenith éprouva un pincement de regret. Il était revenu là, chargé de ses plus riches trésors, prévoyant que Sinker Faldin les écoulerait et qu'il en tirerait un joli bénéfice. Sans doute avait-il été égorgé, sa femme et ses filles emmenées de force comme esclaves. Tout ceci était fichtrement ennuyeux.
« Le cercle, reprit le charme inexorablement, semble être composé de plusieurs éléments. Un capitaine pirate, une vive nef prise, une ville incendiée, un gamin prisonnier de la famille du navire. C'étaient les éléments du premier cycle. Et aujourd'hui, qu'avons-nous? Un capitaine pirate, une vive nef prise, un gamin prisonnier de la famille du navire et une ville incendiée.
Ton analogie s'arrête là, amulette. Les éléments ne concordent pas. Kenith alla à son miroir, puis s'appuya sur sa béquille pour retrousser les pointes de sa moustache.
« Tout de même, la coïncidence est fascinante, je trouve. Que pourrait-on ajouter comme élément? Ah, qu'est-ce que tu dirais d'un père enchaîné ?»
Kenith tordit le poignet de façon à pouvoir regarder le charme en face.
« Ou d'une femme à la langue coupée, je pourrais arranger ça aussi. »
La minuscule figure plissa les yeux.
Ça tourne en rond, idiot, en rond. Une fois que tu as mis en route la meule, tu crois pouvoir échapper à ton destin. Ceci t'était destiné depuis des années, quand tu as choisi de suivre les traces d'Ygrotte. Tu mourras de la mort d'Ygrotte.
Il claqua l'amulette sur la table. « Je ne veux plus t'entendre prononcer ce nom. C'est compris ?» Il regarda le charme qui lui souriait placidement. Au revers de sa main, le sang s'étalait sous la peau. Il tira sa manchette pour cacher l'amulette et la meurtrissure sous un flot de dentelle. Il quitta sa chambre. La puanteur était beaucoup plus forte sur le pont. Le port bourbeux de Partage avait toujours eu une odeur fétide qui lui était particulière, mais aujourd'hui s'y ajoutait celle de brûlé et de mort. Un silence insolite était tombé sur son équipage. La Vivacia avançait comme un vaisseau fantôme poussé par une faible brise sur l'eau paresseuse. Pas un cri, pas un murmure, pas un gémissement. Le terrible silence de la résignation pesait sur le navire. Même la figure de proue était muette. Derrière eux, dans leur sillage, la Marietta approchait dans le même silence de mort. Les yeux de Kenith se posèrent sur Yémin qui se tenait sur le gaillard d'avant. Il pouvait presque sentir la stupeur que le garçon partageait avec Vivacia. Eta était à côté de lui, agrippé à la lisse et penché en avant, telle une figure de proue. Son visage était figé dans une étrange grimace d'incrédulité. La destruction était inégale. Trois murs d'un entrepôt étaient encore debout, comme des mains arrondies autour de la dévastation à l'intérieur.
Il subsistait un mur de l'élégant bordel de Bethel. Ici et là, des mesures isolées avaient refusé de prendre feu. Le sol détrempé sur lequel la ville était bâtie avait épargné ces rares endroits.
« Inutile de mouiller là !»
déclara Kenneth à Brigg.
Le jeune second de la Vivacia s'était glissé sans bruit près de lui.
« Fais virer, cherchons un autre port. »«
Attendez, capitaine, regardez. Il y a quelqu'un. Regardez là-bas. »
Gankis avait eu l'audace d'élever la voix. Le vieil homme décharné avait grimpé dans la mâture pour contempler d'en haut la destruction de la ville.
« Je ne vois rien, »
affirma Kenneth, mais au bout d'un moment, il vit en effet. Il sortait de la jungle, isolé ou par groupe de deux. La porte d'une masure s'ouvrit brusquement. Un homme apparut sur le seuil qui brandissait une épée d'un air de défi. Il avait la tête bandée d'un linge souillé. Ils amarrèrent au pilotis squelettique, vestige du quai principal. Kenneth s'installa à l'avant de la yole qui l'amena à terre. Sorcor, dans l'embarcation de la Marietta, le suivait de près. Etta et le gamin avaient insisté pour accompagner Kenneth. À contre-cœur, il avait dit que l'équipage pouvait débarquer pour un temps bref, à condition qu'une équipe réduite restât à bord. Tous paraissaient avoir envie de descendre à terre pour constater de leurs propres yeux l'étendue des dégâts. Kenneth aurait préféré partir sur le champ. La ville incendiée le troublait. Qui sait comment réagiraient les rescapés désespérés? Les survivants de partage s'étaient rassemblés en foule avant que les embarcations aient atteint le rivage. On aurait dit des spectres silencieux, loqueteux, qui attendaient le débarquement des pirates. Leur silence parut de mauvais augure à Kenneth, tout autant que les regards qui le suivaient. Le canot échoua brusquement sur la laisse vaseuse. Le capitaine ne bougea pas, la main crispée sur sa béquille, tandis que l'équipage sautait et tirait l'embarcation au sec. Il n'aimait pas ce moment. La vase de la plage, d'un noir luisant, était couverte d'une mince couche d'algues verdâtres et huileuses. Sa béquille et son pilon allaient s'enfoncer dès qu'il serait sorti de la yole. Il allait apparaître très maladroit. Pire, il serait vulnérable si ses gens décidaient de l'attaquer. Il resta assis, le regard perdu au-dessus de la foule et attendit une indication claire de leurs intentions. Alors, depuis le canot de la Marietta, il entendit Sorcor s'exclamer
« Alice, tu es vivante !»
Le robuste pirate sauta aussitôt par-dessus bord. Il pataugea dans l'eau et la vase et fonça vers la foule qui se sépara. Il prit dans ses bras une jeune fille craintive et la serra fort sur son torse bombé. Il fallut un moment à Kenneth pour reconnaître dans cet être en guenille la séduisante jeune fille que Sinker Faldin leur avait présentée, ainsi que sa sœur, comme une future épouse. Il se rappela que Sorcor avait paru s'enticher des deux sœurs, mais il ne s'était jamais douté que ce dernier avait poursuivi sa cour. Sorcor gardait Alice Faldin serrée contre lui, comme un ours étreignant son ourson. Elle avait entouré le cou épais du pirate de ses bras pâles et s'accrochait à lui. Étonnant. Les larmes ruisselaient sur ses joues, mais Kenneth voulait croire que c'était des larmes de joie. Sans quoi elle aurait hurlé. Ainsi, la jeune fille était heureuse de le revoir. Kenneth en conclut qu'il pouvait débarquer en toute sécurité.
« Donne-moi le bras !»
dit-il à Yémin. Le garçon avait pâli. Cela lui ferait du bien d'avoir quelque chose à faire.
« Toute la ville a disparu !»
déclara-t-il stupidement en escaladant le plat-bord pour tendre le bras au pirate.
« D'aucuns trouveraient qu'elle a embelli !»
fit observer le capitaine. Il s'était levé et scrutait l'eau infecte avec dégoût. Puis, il fit passer sa jambe de bois par-dessus bord. Comme il l'avait craint, il s'enfonça dans la vase molle. Grâce au soutien offert par l'épaule de Yémin, il ne s'engloutit pas jusqu'au genou, mais faillit perdre l'équilibre. Alors Etta lui prit l'autre bras et le remit d'aplomb. Ils avancèrent péniblement sur la grève fangeuse, jusqu'à atteindre un sol plus ferme. Kenneth repéra un rocher qui émergeait de la vase et le choisit pour faire halte. Il planta son pilon au sommet et regarda autour de lui. La dévastation était complète. Par endroits, on apercevait de nouvelles pousses dans la jungle roussie indiquant que l'attaque avait eu lieu des semaines auparavant. mais nul signe d'un quelconque effort de reconstruction. Ils avaient raison. À quoi bon? Une fois que les trafiquants d'esclaves découvraient une colonie, ils revenaient jusqu'à ce qu'ils aient enlevé tout le monde. Partage, une des plus anciennes colonies pirates, était morte. Kenneth secoua la tête.
Je leur ai répété je ne sais combien de fois qu'ils devaient ériger deux tours et installer une baliste. S'ils avaient eu ne fût-ce qu'une seule tour avec une sentinelle, ils auraient eu le temps de fuir. Mais personne ne voulait m'écouter. La seule chose qui les préoccupait, c'était de savoir qui allait payer.
Il était bien satisfaisant d'avoir eu raison et on ne pouvait nier qu'il les avait prévenus. Ses suggestions avaient été généralement accueillies par des railleries où on l'avait accusé de vouloir accroître son pouvoir. Pourtant, certains survivants braquaient sur lui un regard accusateur. Un homme empourpré de colère désigna Kenneth du doigt et déclara
« Vous, c'est vous le responsable. C'est vous qui avez attiré les Chalcédiens sur nous.
Moi ?»
s'écria Kenneth hors de lui.
« Je vous l'ai dit, c'est moi qui vous ai prévenu que ça allait arriver. Si vous m'aviez écouté, il y aurait beaucoup plus de survivants aujourd'hui. Qui sait ? Peut-être même auriez-vous pu mettre les attaquants en déroute et vous emparer de leur navire. »
Il eut un reniflement de mépris.
« Je suis bien le dernier à blâmer pour ce qui s'est passé ici. Si vous cherchez absolument un responsable, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même et à votre entêtement de cochon. »
Il n'aurait pas dû adopter ce ton. Kenneth s'en rendit compte presque aussitôt. Trop tard. La foule dévala vers lui comme une avalanche de glace sur un iceberg. Il eut la sensation qu'une vague inévitable de destruction déferlait sur lui. Etta, cette fichue Etta, lui lâcha le bras. Allait-elle s'enfuir en courant? Non, sa main s'était portée à son poignard. Voilà qui allait bien les avancer face à une foule pareille. Il fut néanmoins sensible à son intention. Il décrispa les épaules d'un bref balancement et lâcha Yéma en lui faisant signe de s'écarter. Kenneth avait son propre couteau. Il vendrait chèrement sa peau. Il plaqua sur son visage un petit sourire et les attendit, le pilon ferme sur le rocher. Quelle ne fut pas sa stupéfaction de voir le garçon dégainer lui aussi un poignard, de grande valeur en vérité, et se placer devant lui. À ses côtés, Etta eut un hoquet de surprise, puis émit un petit grognement amusé. Elle affichait un sourire orgueilleux et féroce. C'était peut-être le spectacle le plus effrayant que Kenneth eût jamais vu. Il savait bien qu'elle prenait plaisir à couper les gens en morceaux. Au moins était-elle de son bord cette fois-ci. Il entendit des bruits d'éclaboussements et de bottes qui patouillaient dans la fange alors que son équipage se rangeait derrière lui. Quatre hommes seulement l'avaient accompagné à terre. Une partie de lui-même releva que Vivacia criait quelque chose. Elle voyait ce qui se passait, mais elle ne pouvait rien pour lui maintenant. Le temps qu'elle mette à l'eau un canot et qu'elle envoie des hommes en renfort, ce serait fini. Il ne bougea pas d'un pouce et attendit. La foule déferla vers lui, puis l'encercla, menaçante. Derrière Kenneth, les hommes se tournèrent vers l'extérieur. La tension vibrait dans l'air. Face à un groupe de gaillards armés et déterminés, personne n'avait envie d'être le premier à engager le combat. Il reconnut l'homme à la figure rouge auquel il faisait face maintenant. C'était Bauge, un tavernier. Il portait un gourdin qu'il tapotait contre sa jambe d'un air éloquent, mais il restait prudemment hors de portée du poignard de Yémin. Les autres attendaient qu'il passât l'attaque. Kenneth devina que Bauge n'était pas enchanté de se retrouver tout à coup le chef de cette cohue. D'un coup d'œil, il vit les matelots de la Marietta et Sorcor échelonnés le long du groupe des villageois. La jeune fille avait disparu. Kenneth n'avait pas le temps de se poser de questions. Ils échangèrent un regard. Sorcor n'avait pas besoin que son capitaine lui fasse signe. Il ne broncherait pas avant que l'affrontement ne devienne inévitable. Alors, il se taillerait un chemin vers Kenneth aussi rapidement que possible. Bauge lança un regard circonspect par-dessus son épaule, puis sourit avec une froide satisfaction à ceux qui avaient entouré le pirate. Sûr de ses arrières, il affronta Kenneth.
Il dut regarder par-dessus la tête de Yémin pour croiser le regard du pirate.
« C'est votre faute, espèce de salaud. C'est vous qui avez tout provoqué en vous emparant de transport d'esclaves. Fallait faire de l'épate. Ça vous suffisait pas de gagner simplement votre vie. Vous, avec vos histoires de rois. Un navire par-ci, par-là, le gamin à couronne, là-bas, Jamélia, il s'en fichait. Jusqu'à ce que vous vous pointiez. Le gouverneur nous laissait tranquilles. Jusqu'à ce que vous semiez la zizanie. Vous vous en êtes pris à sa poche personnelle. Maintenant, regardez ce que vous avez fait. Il ne nous reste plus rien. Il va falloir qu'on déniche un autre endroit et qu'on reconstruise tout de zéro. On risque pas de retrouver une cachette comme partage. On était en sécurité ici, et vous avez tout fichu par terre. Les pillards qui sont venus ici, c'est vous qu'ils cherchaient tout spécialement. »
Soudain, il frappa son gourdin contre sa paume d'un geste sans équivoque.
« Vous nous devez quelque chose, et c'est comme ça que je le vois, moi. On va prendre ce que vous avez sur ce bateau. Après, on pourra se trouver une nouvelle cachette. À vous de décider comment on opérera. Si vous voulez pas partager de bon gré, eh ben... »
Il fit tournoyer son gourdin qui siffla dans l'air. Kenneth ne broncha pas. D'autres rescapés apparaissaient à l'orée de la forêt. À l'évidence, il y en avait davantage qu'il ne l'avait cru d'abord, mais cet affrontement était absurde. Même s'il le tuait là, sur la plage, qu'il décimait ses hommes, il ne s'attendait tout de même pas que les deux navires mettent pavillon bas devant eux. Ils fileraient tout simplement. C'était stupide. Mais généralement, les foules sont stupides et meurtrières. Son sourire s'élargit tandis qu'il préparait ses mots.
« Vous cachez. Vous ne pensez qu'à ça. »
La voix de Yémin saisit Kenneth. Elle résonnait, claire comme celle d'un barde, chargé de mépris et assez forte pour porter jusqu'aux hommes qui sortaient de la jungle. Yémin tenait la garde basse. Où avait-il appris cela? Mais le gamin avait manifestement autre chose en tête que le combat.
« L'affaire Morveux. On n'a pas tant à perdre en parlotte. »
Bouge soupesait sa trique d'un air menaçant. Il lorgna Kenneth par-dessus la tête de Yémin.
« Alors, roi Kenneth, de bon gré ou... »«
Bien sûr que vous n'avez pas de temps à perdre en parlotte, »
déclara Yémin.
« Pour parler, il faut de la cervelle, pas des muscles. Personne ici n'a jamais le temps de parler, même quand cela aurait pu vous sauver. Kenneth a essayé de vous montrer le chemin. Vous ne pouvez vous soustraire à ce qui se passe en dehors de votre petite ville. Tôt ou tard, le reste du monde vous rattrape. Kenneth a tenté de vous prévenir. Il vous a dit de fortifier la ville, mais vous n'avez pas voulu écouter. Il vous a amené des esclaves, il les a libérés, mais vous n'avez pas voulu les regarder, ni vous voir vous-même. Non, vous avez préféré vous terrer là, dans la vase, comme des crabes charognards, et croire que le monde ne ferait jamais attention à vous. Cela ne marche pas comme ça. Si vous voulez l'écouter aujourd'hui, vous comprendrez comment redevenir des hommes. J'ai vu les croquis dans sa chambre. Ce port pourrait être fortifié. Partage pourrait se déclarer au grand jour. Vous pourriez draguer ce bourbier puant que vous appelez port et revendiquer votre place sur les cartes des marchands. Vous n'auriez qu'à redresser la tête et dire « Nous sommes un peuple, non une bande de hors-la-loi et de proscrits de Jamélia. Choisissez-vous un chef et prenez-vous en main. » Mais non, vous ne cherchez qu'à faire gicler davantage de cervelle, à répandre la mort puis à aller vous cacher sous une pierre en attendant que les sbires du gouverneur vous en délogent à nouveau.
Le garçon était hors d'haleine. Kenneth espéra qu'on ne le voyait pas trembler. Il baissa la voix comme s'il ne s'adressait qu'à Yémin, mais il savait que ses paroles porteraient.
« Laisse tomber, fiston. Ils n'ont pas voulu m'écouter, ils ne vont pas t'écouter, toi. Se battre et se cacher, ils ne connaissent que ça. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de leur apprendre à être libres. »
Il haussa une épaule.
« Qu'ils fassent ce qu'ils voudront. »
Il leva les yeux et parcourut la foule du regard. Certains visages tatoués lui étaient vaguement familiers. « Des esclaves que j'ai amenés ici en homme libre, » se dit-il, tandis que l'un après l'autre, il détournait les yeux. Un esclave, plus brave que les autres, sortit de la foule.
« Je suis avec Kenneth !»
déclara-t-il simplement. Et il franchit la courte distance qui le séparait des matelots de Sorcor. Cinq ou six l'imitèrent sans un mot.
La foule commença à s'agiter alors que ses rangs diminuaient. Ceux qui étaient sortis de la lisière de la forêt restaient à l'écart, manifestement peu désireux de prendre parti. La situation semblait plus confuse que tout à l'heure. Une voix de femme s'éleva brusquement.
« Karoum, Hérode, honte à vous! Ce qu'il dit est vrai, vous le savez, vous le savez !»
C'était Alice. Elle se tenait debout dans la yule de la Marietta. Sorcor avait dû l'y déposer. Elle pointait sur les hommes un doigt accusateur en les nommant.
« Vaor, Kolp, vous vous moquiez de Lily et de moi en disant que père avait proposé notre main à un fou et à son second. Et que vous a dit ma mère? Que c'était des hommes qui prévoyaient l'avenir. Des hommes qui essayaient de nous aider à devenir autre chose qu'un village perdu au milieu de nulle part. Et maintenant elle est morte. Morte! Ce n'est pas Kenith qui l'a tuée. C'est votre bêtise. Nous n'avons pas voulu l'écouter. Nous avions besoin d'un roi qui nous protège, mais nous nous sommes moqués de sa proposition. »
La chemise trempée de sueur de Kenith collait à son dos. À présent, la Marietta et la Vivacia avaient dû mettre à l'eau d'autres embarcations. S'ils pouvaient retarder l'attaque encore un moment, ils disposeraient bientôt d'un nombre d'hommes suffisant pour retourner la situation en sa faveur. Il n'empêche qu'il mourrait probablement. Le garçon devant lui et la femme à ses côtés en ralentiraient au mieux un ou deux. Alors il mourrait dès qu'il l'obligerait à s'écarter de son rocher où était ancré son pilon. Il mourrait. Au fond de la foule, certains étaient plus dispersés. Ils s'étaient légèrement éloignés de leurs compagnons et avaient une attitude plus attentive que menaçante. Bouge n'en faisait pas partie. Ainsi que les 5 ou 6 hommes qui étaient les plus proches de Kenith, il était campé, épaules carrées, coudes écartés, mains crispées sur ses armes. La résistance des autres survivants n'avait fait apparemment qu'attiser la fureur de Bauge. Le jeune homme à côté de lui était son fils, très probablement. Le souffle court et précipité, Bauge remuait les lèvres comme s'il ne pouvait trouver des mots assez acerbes.
« Vous avez tort !»
rugit-il soudain.
« C'est sa faute, c'est lui qui les a attirés !»
Il poussa un cri perçant et bondit en avant en balançant sa trique. Alors la foule derrière lui s'ébranla et déferla comme une vague. Le gourdin de Bauge balaya l'endroit où, une seconde avant, se trouvait le crâne de Yéma. Le garçon n'avait pas plongé assez bas. Kenith vit le coup oblique le frapper sur le côté. Il crut que le gamin allait s'effondrer. Il planta sa béquille et leva son couteau pour se défendre. Un jeune dur avait engagé le fer avec Eta. Elle ne lui serait d'aucun secours. Alors que Kenith brandissait son poignard, Yéma s'interposa brusquement entre Bauge et lui. Comme un arbrisseau que le vent plie mais ne rompt pas, le garçon avait repris sa position. L'ébahissement se peignit sur la figure de Bauge, mais l'imbécile avait déjà donné de l'élan à sa trique pour asséner à Kenith un coup mortel. Sa poitrine était exposée. Sans doute le tavernier avait-il l'habitude qu'un comptoir le sépare de sa victime. La lame de Yéma se ficha dans la chair, transperça chemise et gilet pour s'enfoncer dans son ventre dur. Le garçon poussa un cri, à la fois d'horreur et de haine. Bauge rugit, blessé, mais loin d'être mort. Le combat se resserrait de tous côtés. Kenith entendait Sorcor gronder des jurons pour encourager ses hommes qui se taillaient un passage vers lui à travers la foule. Il distingua les cris perçants des femmes, s'aperçut que certains fuyaient. Tout se précipitait. Pourtant, il avait le sentiment de se trouver sur un îlot de paix. Eta luttait par terre, dans la boue, lardait son adversaire de coups de poignard. Kenith était vaguement conscient de la bataille qui faisait rage autour de lui. Des cris de guerre lui parvenaient depuis la mer, probablement les matelots dans les canots qui vociféraient, enragés par leur impuissance. Derrière eux, 2 hommes se colletaient dans la boue. L'un d'eux donna un coup de pied et crocheta la béquille du pirate, qui fit un demi-tour en chancelant. Bauge abattit sa trique sur l'épaule de Yéma alors que celui-ci retirait sa lame pour la planter de nouveau dans sa victime. Kenith entendit le claquement violent du cou et le glapissement de douleur du garçon, et il se jeta en trébuchant sur eux. Il se rattrapa à Bauge et le frappa à son tour de son poignard. Il n'avait plus de béquille. Son pilon s'enfonçait dans la vase, le déportant sur le côté. Le dernier moulinet de Bauge mourant le manqua de justesse. Kenith tomba sur Yéma, puis Bauge s'abattit sur eux comme un arbre scié. Le poids du tavernier plaqua le pirate dans la boue luisante. Plus que la colère, ce fut l'humiliation ressentie dans cette position dégradante qui galvanisa le capitaine.
Dans un rugissement, il se libéra de l'homme et l'acheva en lui tranchant la gorge. Il se redressa en s'appuyant sur son bon genou et aperçut Etta, dos dans la boue. Elle agrippait des deux mains le poignet d'un homme fort qui cherchait à la poignarder, tandis que de l'autre main il l'étranglait. Kenit enfonça son couteau en plein dans son rein droit. L'homme poussa un cri aigu et se tordit de douleur. Etta en profita pour détourner la lame qui la menaçait et la plonger dans le ventre de l'homme. D'un même mouvement, elle roula dessous lui, se remit sur pied en criant
« Kenit ! Kenit !»
Elle était repoussante.
Elle avança en pataugeant puis se campa au-dessus de lui avec son poignard pour le protéger.
C'était trop humiliant. Kenit se releva péniblement. La mêlée prit fin aussi soudainement qu'elle avait commencé.
Les pirates étaient debout. Tous ceux qui, dans la foule, avaient vraiment voulu se battre étaient étendus pour le compte. Le reste s'était retiré à distance respectueuse. D'une façon ou d'une autre, Sorcor était parvenu à tailler dans le vif de la bagarre, comme d'habitude. Alors que Kenit perdait une nouvelle fois l'équilibre et se retrouvait assis dans la fange, Sorcor se débarrassa avec désinvolture d'un blessé et franchit la distance qui le séparait du capitaine en tendant une main dégouttant de sang et de boue. Avant que Kenit ait pu protester, son second l'avait saisi par sa veste et remis sur pied. Etta ramassa la béquille crottée et la lui rendit. Il se força à prendre un air nonchalant en la replaçant sous son bras. À ses pieds, Yema avait réussi à se redresser sur ses genoux. De son bras droit, il soutenait le gauche tout en continuant à serrer son couteau. Etta le remarqua et eut un rire empreint de fierté. Sans prêter attention à son gémissement, elle l'empoigna par le pan de sa chemise et le hissa sur ses pieds. À la surprise de Kenit, elle gratifia le gamin d'une rude accolade.
« Tu ne t'es pas mal débrouillé pour une première.
La prochaine fois, baisse-toi davantage. »
« Je crois que j'ai le bras cassé. »
répondit-il le souffle court.
« Fais voir. »
Elle lui prit le bras et le palpa. Malgré lui, Yéma laissa échapper un cri et voulut s'écarter, mais elle le tenait fermement.
« Il n'est pas cassé. Si c'était le cas, tu te serais déjà évanoui. Je crois quand même qu'il est fêlé. Tu t'en remettras. »« Aide-moi à gagner la terre ferme !»
ordonna Kenit, mais ce fut Sorcor qui l'aida à avancer. Etta et Yéma les suivaient. D'abord ulcérés, il se rappela que c'était lui qui avait voulu les jeter dans les bras l'un de l'autre. Ils passèrent près des quelques morts, dont un qui était resté assis, la tête penchée sur son ventre béant. Les autres avaient reculé à bonne distance. L'un de ces hommes avait la jambe entaillée, mais pour la plupart, ils étaient indemnes. L'issue du combat n'étonna pas Kenit. Ils avaient sur ces bagarreurs de rue la supériorité des estomacs pleins, des armes et de l'expérience. Seulement au départ, les chances étaient contre lui. Il avait suffi de quelques morts pour renverser rapidement la situation. Quand il fut sur un terrain assez ferme pour pouvoir se tenir debout sans soutien, Kenit s'essuya soigneusement les mains sur ses culottes irrémédiablement perdues. Il jeta un regard par-dessus les hommes d'équipage qui l'entouraient d'un cercle protecteur vers les ruines de la ville. Nulle part où prendre un bain, nulle part où se désaltérer tranquillement, nulle part où vendre son butin. Il ne restait rien de partage. À quoi bon s'attarder ?
Allons-nous-en d'ici,
dit-il à Sorcor.
Il y a quelqu'un à Lance au Taureau qui a des liens avec Chandel. À notre dernier passage, il se vantait de nous avoir un bon prix pour notre butin. On va peut-être essayer avec lui.
Capitaine,
acquiesça Sorcor. Puis il baissa la tête comme s'il examinait le sable entre ses grandes bottes.
Capitaine, je prends Alice avec moi.
S'il le faut,
répondit Kenit agacé. Quand le pirate releva la tête, des étincelles de colère brillaient dans ses yeux.
« Bien sûr qu'il le faut !»
se hâta de corriger Kenit en secouant la tête d'un air triste.
« Car que lui reste-t-il à cette pauvre fille ici? Tu es son seul protecteur désormais, Sorcor. Je considère que c'est de ton devoir. Il le faut !»
Sorcor hochait la tête avec gravité.
C'est aussi comme ça que je le considère, capitaine. »
Kenneth regarda avec dégoût la vase piétinée qu'il devait traverser pour rejoindre la yole. Il devrait s'arranger pour ne pas paraître plus gauche que les autres. Et il empoigna fermement sa béquille glissante.
« Allons-y, nous n'avons plus rien à faire ici. »
Il jeta un œil circonspect aux hommes serrés les uns contre les autres qui les dévisageaient. Personne ne semblait disposé à attaquer, mais on ne savait jamais. L'un d'eux sortit hardiment de la foule.
« Vous nous laissez ici comme ça ?»
demanda-t-il incrédule.
« Et comment voulez-vous que je vous laisse ?»
fit Kenneth. Cette fois encore, Yémin le surprit.
« Vous avez manifesté très clairement qu'il n'est pas le bienvenu ici. Pourquoi perdrait-il son temps avec vous ?»
déclara le garçon sur un ton de véritable dédain.
« C'est pas nous qui lui avons sauté dessus !»
s'écria l'homme indigné.
« C'est les autres là, les fauteurs de troubles, et ils sont tous morts maintenant. Pourquoi qu'on serait puni pour ce qu'ils ont fait ?»«
Ce n'est pas vous non plus qui êtes intervenu pour le sauver !»
rétorqua sèchement Yémin.
Cela prouve que vous n'avez rien appris, rien. Vous continuez à croire que le malheur qui s'abat sur les autres ne vous concerne pas. Qu'on prenne les autres en esclavage, qu'on détruise les autres villes, qu'on assassine les autres sur la plage sous vos yeux, cela vous est bien égal tant que ce n'est pas vous qu'on égorge. Mais nous n'avons pas le temps d'attendre jusque-là. Il y a des villes qui ne demandent qu'à écouter ce qu'il a à dire, qu'à bénéficier de ses directives. Partage est morte. Elle n'a jamais figuré sur aucune carte et n'y figurera jamais. Parce que ses habitants étaient déjà morts. »
La voix du garçon possédait une puissante autorité. Ceux-là même qui l'invectivaient s'approchaient, ferrés comme des poissons au bout d'une ligne. Certains le regardaient, l'œil torve, d'autres paraissaient honteux. D'autres encore avaient cet air hagard des rescapés d'un terrible désastre que la raison a déserté. Ils s'avançaient vers lui. Plus étrange encore, les hommes d'équipage s'écartèrent pour laisser à Yémin le champ libre devant son auditoire. Quand il se tut, le silence qui accueillit ses paroles fit écho à ses accusations.
« D'autres villes ?»
demanda enfin quelqu'un dans la foule.
« D'autres villes ?»
confirma Yémin.
« Des villes comme Guingoua. Ils ont pris le navire que Kenneth leur a donné et en ont fait bon usage. Avec l'argent qui est rentré, ils ont amélioré leur sort à tous. Ils ne se cachent plus, se risquent à sortir de leur territoire et proclament au monde qu'ils sont là et qu'ils sont libres. Ils font commerce au grand jour et ils défient les transports d'esclaves qui cherchent à passer. Au contraire de vous, ils ont pris au sérieux les paroles de Kenneth. Ils sont en train de fortifier leur port et ils vivent libres.
« Avec nous, ça ne marchera pas !»
objecta une femme.
« On ne peut pas rester ici !» « Les pillards savent où on est, ils vont revenir. Vous devez nous emmener, vous le devez. Notre seul espoir, c'est la fuite. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?»«
Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ?»
répéta Yémin d'un air songeur. Il se haussa sur la pointe des pieds, promena un regard critique sur le port sordide.
« Là-bas »
fit-il en désignant du doigt un promontoire peu élevé.
C'est par là que vous pourriez commencer. Vous reconstruisez, mais vous commencez par ériger une tour là-bas. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit très haute pour dominer le lagon. Avec un homme qui monte la garde là, voire même un enfant, vous auriez été averti à temps et vous auriez eu la possibilité de fuir ou de vous préparer à vous battre. Vous auriez survécu à la dernière attaque.
Vous suggérez qu'on reconstruise Partage ?
Demanda un homme sceptique, avec un geste englobant les décombres.
« Avec quoi ?»«
Ah, je vois. Vous avez de meilleures perspectives ailleurs ?»
interrogea Yémin sèchement. N'obtenant pas de réponse, il poursuivit.
« Reconstruisez avec ce que vous avez sous la main. On peut récupérer du bois d'œuvre, couper des arbres, mettez-les à sécher pour plus tard, renflouer les navires dans le port. S'ils sont hors d'état, « réutiliser leur bordée !»
Ils secouaient la tête comme s'ils ne revenaient pas de leur bêtise.
« On doit vous mâcher le travail. Résister. Ce n'était pas votre ville. Pourquoi les laisser vous enchasser ? Reconstruisez, mais cette fois-ci, faites-le correctement,
en prévoyant la défense, en réfléchissant aux moyens de faciliter le commerce, de purifier l'eau. Les quais n'auraient jamais dû être construits ici. Ils devraient partir de là. Vous avez réservé le meilleur terrain aux entrepôts. Établissez maisons et boutiques et construisez les entrepôts sur pilotis là-bas, où les navires pourront accoster directement à leurs portes. C'était dans les plans de Kenneth, il le voyait clairement. Je ne peux pas croire que cela ne vous soit pas évident.
Il est peu de choses qui attirent autant que la perspective d'un nouveau départ dans la vie. Kenneth constata qu'il regardait autour d'eux avec un œil neuf et changeait des regards. Presque en même temps, il discerna sur certains visages une expression rusée. C'était l'occasion. On avait là une chance de gagner davantage que ce qu'on avait perdu. Les nouveaux venus, les pauvres, se retrouvaient tout à coup à égalité avec les autres. Il était à parier que les propriétaires des navires avaient été emmenés de force et enchaînés. Il y aurait des malins pour s'approprier les restes. Tel un prophète, Yémin enfla la voix.
« Kenneth est un homme bon, qui s'est toujours soucié de vous, même quand vous avez rejeté ses propositions d'aide. Vous n'avez jamais été loin de son cœur. J'ai d'abord douté de ses intentions. Mais aujourd'hui, je peux vous dire ceci. J'ai scruté les profondeurs de son être, et je crois désormais en ce qu'il croit. Ça lui a assigné un destin. Kenneth sera le roi des îles des pirates. Serez-vous sujet de l'une de ces cités, ou voulez-vous disparaître ?
Kenneth ne pouvait en croire ses oreilles. Alors son cœur fut saisi. Le garçon était son prophète. Ça lui avait envoyé Yémin, un prêtre, pour ouvrir les yeux des autres sur son destin. C'était bien cela qu'il avait pressenti quand il avait vu le garçon pour la première fois. C'était le lien qui existe entre roi et prophète qui les avait unis. Et non point, comme l'amulette l'en avait accusé, quelque impulsion morbide à vouloir répéter le passé. Yémin était son prophète, sa chance incarnée. Tandis que se déroulait le miracle, il advint des choses plus étranges encore. Un homme s'avança en déclarant
« Je vais rester ici, je vais reconstruire. Quand je me suis enfui de chez mon maître à Jamelia, j'ai cru que j'étais libre. Mais maintenant je vois que non. Le garçon a raison. Je ne serai pas libre tant que je n'aurai pas cessé de fuir et de me cacher. »
L'un des esclaves affranchis vint le rejoindre.
« Je suis ici. Je n'ai nulle part où aller, je ne possède rien. Je recommence ici. »
Un autre l'imita en silence. Lentement, petit à petit, la foule tout entière s'avança. Kenneth posa une main boueuse sur l'épaule de Yémin. Le garçon tourna la tête pour le regarder, et l'admiration qui brillait dans ses yeux faillit aveugler le pirate. Durant un instant, il éprouva une émotion véritable, si aiguë qu'il n'aurait su dire s'il s'agissait de souffrance ou d'amour. Sa gorge se serra. Quand il prit enfin la parole, ce fut à voix basse et les hommes se rapprochèrent pour l'entendre. Il avait le sentiment d'être un saint. Non, un roi sage et bien-aimé. Il sourit à son peuple.
Il faut agir ensemble, et non chacun pour soi. Commencez par la tour, certes, mais à sa base, construisez un abri qui puisse tous vous protéger jusqu'à ce que vos maisons soient remises en état. Creusez des puits au lieu de tirer votre eau du bourbier.
Il promena le regard sur son auditoire. Ils venaient à lui comme des enfants perdus et misérables. Ils étaient enfin disposés à l'écouter. Ils pouvaient modifier le cours de leur existence. Ils acceptaient qu'il leur montre comment vivre. Son cœur se gonfla d'un sentiment de triomphe. Et il se tourna vers Eta.
« Eta, rejoins Vivacia. Va dans ma chambre. Apporte-moi les plans qui sont sur mon bureau. Ils sont marqués clairement. Tu vois ceux dont je veux parler. »
« Je les trouverai, je sais lire, » fit-elle remarquer doucement. Elle lui effleura le bras, sourit avec chaleur, puis se tourna pour réquisitionner deux rameurs. Il l'appela.
« Dis à l'équipage de bien amarrer. Nous allons demeurer ici quelque temps pour aider Partage à se reconstruire. La Marietta a des sacs de blé à bord. Fais-les décharger. Ces gens ont faim. »
Un murmure parcourut la foule. Une jeune femme s'avança.
« Capitaine, vous n'avez pas besoin de rester ici. Ma maison est encore debout et j'ai une table. Je peux aussi aller tirer de l'eau pour que vous vous laviez. »
Elle eut un geste humble.
« C'est un pauvre logis, mais je serai honorée. »
Il lui sourit, puis se retourna vers ses loyaux sujets.
« Ce sera avec le plus grand plaisir. »